Vous écoutez RTL.
RTL.
Le président François Hollande exprime son profond respect pour le sacrifice de ce jeune soldat au service de notre pays. C'est dans un blindé qu'il se trouvait.
La curiosité est un vilain défaut.
Son convoi approchait de sa destination finale quand le véhicule a explosé sur une mine, le tuant sur le coup.
Jusqu'à 22h.
Aujourd'hui, l'opération Barkhane mobilise toujours 3500 soldats dans les pays du Sahel, dont 1300 au Mali.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a un peu plus d'un mois, le 13 avril, trois soldats français étaient tués par l'explosion d'une mine au nord du Mali, hommage rendu par la nation. Ces morts, on en parle dans les journaux, mais les blessés psychologiques, ceux qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, ils sont souvent oubliés. Ou comment sont-ils pris en charge? C'est ce que l'on vous raconte avec Lucas Duvernay Coppola, qui est journaliste au magazine Society. Pour ce magazine, Lucas, vous avez pu rencontrer certains de ces soldats, passer du temps avec eux. Où sont-ils pris en charge? Vous pouvez nous décrire les lieux?
Alors en fait, les soldats qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique sont pris en charge dans un chalet qui appartient à la 6e brigade légère blindée. Ça se passe à Beuil, aux portes du parc du Mercantour.
Donc c'est l'armée de terre, c'est ça?
C'est l'armée de terre, absolument. Mmh. Et en fait, l'armée a mis en place ce stage de ressources qui dure 9 jours pour 10 soldats. Donc on a passé les 9 jours en fait avec les 10 soldats.
C'est un grand chalet, c'est ça? Il ressemble à quoi?
C'est une infrastructure militaire en fait. Donc il y a des militaires encore qui sont toujours là. Et puis en fait, je crois qu'il est disponible pour les familles des militaires qui ont envie d'aller skier dans la région. Donc c'est un espèce de mélange entre le civil et le militaire qui est un peu tout l'objet de ce stage.
Alors dans votre article du magazine Society, vous racontez que pour vous, tout commence en fait à la gare de Nice, et vous faites le trajet entre la gare de Nice et le chalet de Beuil avec ses 10 soldats. Il y a que des hommes, il y a des hommes, des femmes?
Alors c'était le 6e stage de ce genre. Il se trouve que là il n'y avait que des hommes, mais des femmes sont aussi passées par là.
Et ça se passe comment déjà le trajet?
Alors le trajet donc se fait en véhicule, l'armée vient récupérer les blessés à la gare de Nice. Et donc en fait ce chalet a été choisi pour son isolement et son calme. Le fait est que pour y accéder, il y a une route qui est assez sinueuse, avec un paysage qui est presque lunaire. Et ça a rappelé à certains blessés des paysages d'Afghanistan.
Et donc c'était plutôt salutaire ou c'est plutôt angoissant?
Non,
ce genre
c'est
de
plutôt
paysage.
Angoissant. L'ambiance était très pesante dans les véhicules qui nous ont amenés au lieu de séjour. L'ambiance était très pesante, très silencieuse.
Ces soldats, ils sont accueillis par un homme, c'est le colonel Malou. Qui est-il?
Le colonel Malou, c'est le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, donc on dit la CABAT. C'est le chef de la CABAT depuis 2010, donc c'est un colonel qui a servi dans l'armée, qui sert toujours dans l'armée. Et donc qui, depuis 2010, s'est retrouvé en première ligne pour traiter un petit peu le phénomène de syndrome de stress post-traumatique.
Comment est-ce qu'il se présente, ce colonel Malou, aux nouveaux arrivants?
Alors ce colonel aux nouveaux arrivants se donne un prénom en fait, parce qu'il est primordial, il a appris qu'il était primordial dans ce type de stage de casser toute hiérarchie. Donc il est hors de question pour ses blessés de devoir se mettre au garde à vous devant un homme qui est leur supérieur hiérarchique.
Donc il ne l'appelle pas colonel quoi?
Non, il l'appelle par un prénom.
Qu'il donne, qui n'est pas forcément son prénom, c'est ça?
C'est un pseudonyme en fait qu'il donne parce que dans le stage il travaille avec des gens de son staff, qu'il le voit tous les jours, et c'est un petit peu compliqué pour un colonel de se faire appeler par son prénom.
D'accord.
Donc il donne un pseudo.
Ces soldats qui arrivent dans ce chalet de Beuil, quelle guerre ils ont fait?
Alors ce qu'on a vu, ils avaient fait le Mali, ils avaient fait la Centrafrique, ils avaient fait aussi l'Afghanistan.
C'est pas nouveau le trauma des soldats, c'est décrit depuis longtemps. Dans votre article, vous dites que ça remonte quoi? Presque à l'Antiquité, c'est
ouais,
ça?
Ouais, en fait c'est simple, ce syndrome, on peut dire qu'il existe depuis que la guerre existe, et comme la guerre existe depuis toujours, ce syndrome existe lui aussi depuis toujours. En fait, Plutarque raconte dans sa biographie d'un général romain qui s'appelle Caius Marius, que ce général souffrait lui aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Mais c'est un phénomène relativement récent pour l'armée de terre française.
Alors c'est ça, c'était la question suivante. Ça existe et ça a été décrit, vous nous le dites, par Plutarque. Et pourtant, on a le sentiment que l'armée française, peut-être comme d'autres armées dans le monde, ont mis du temps à quoi? À mettre en place une structure comme cette structure?
Non,
du chalet
à comprendre
de Beuil,
en fait. Les armées ont mis du temps à comprendre et à saisir toute l'importance en fait de ce phénomène. Longtemps, si on prend l'historique, les soldats qui étaient atteints de ce syndrome étaient considérés comme des lâches, comme des faibles, comme des tirs au flanc. Après la Première Guerre mondiale, les soldats qui étaient atteints de ce syndrome-là étaient fusillés, hein, tout simplement. Plus tard, ils ont été enfermés. En fait, ce terme est apparu au moment de la guerre du Vietnam. Donc, on a parlé de... C'est à ce moment-là qu'on a parlé de syndrome de stress post-traumatique. Et pour l'armée française, en fait, il y a une bascule qui s'opérait en 2008 au moment d'une embuscade à Ouzbine en Afghanistan, dans laquelle plusieurs soldats français ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Elle a mis en place un petit questionnaire pour les soldats qui revenaient d'opération. Ça n'a pas été très très concluant, puisqu'il y avait très peu de soldats blessés psychiquement encore à ce moment-là. Et la véritable bascule s'opère en 2013, après l'Afghanistan en fait, où là, en 2013, l'armée française commence à recenser plus de 200 soldats atteints de syndrome de stress post-traumatique.
Alors la mission de ce colonel Malou, quand il accueille ses arrivants au chalet de Beuil, c'est quoi ? C'est de les encadrer, de les écouter ?
Alors en fait, donc la mission du colonel Malou, lui s'occupe des blessés de l'armée de terre. Et donc c'est lui qui a été confronté à l'arrivée des blessés psychiques. Il avait l'habitude des blessés physiques. Là, il a été confronté aux blessés psychiques. Et donc il a mis en place en fait ce stage de 9 jours qui est un stage de ressources lors duquel les soldats font du sport, hein, et ont aussi des ateliers de méditation, de relaxation. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on les aide à aller vers la vie civile, en fait. Certains ne sont plus en condition, n'ont plus envie, la plupart, en fait, n'ont plus envie, ne sont plus aptes à servir dans l'armée.
C'est comme un sas de transition.
Exactement, ouais. C'est un sas de transition vers la vie civile.
Alors, on va raconter certaines des histoires de ces soldats. Votre article commence par l'histoire de Fred. Vous pouvez nous le présenter ?
Alors, Fred, c'est un soldat qui est grand. Il est roux, il a les traits plutôt sévères. C'était un tireur d'élite dans l'armée française. Il a fait plusieurs opérations extérieures. Il a fait la Yougoslavie, il a fait la Côte d'Ivoire et il a fait le Mali. Et c'est après le Mali que son syndrome s'est déclenché.
Il y a souvent une image qui déclenche le syndrome. Pour lui, c'est quelle image ?
Alors Fred, ce qu'il nous a raconté, c'était que l'image, en tout cas, qui le hantait, sachant que c'est une accumulation de choses aussi, hein, qui peut provoquer le syndrome. Lui, un jour, il marchait dans le désert à la tête de ses hommes et puis son pied a buté sur une main qui dépassait du sable. L'index était tendu vers le ciel. Ils ont compris que c'était un charnier, c'est-à-dire que plusieurs corps étaient ensevelis. C'était des corps qui étaient nus et décomposés. Ils ne savaient pas si c'était des villageois ou si c'était des djihadistes. Et c'est cette image, en fait, qu'il revoit sans cesse dans ses cauchemars, cette main qui dépasse du sable.
Il dit, à propos de ce qu'il ressent, que ce n'est pas une maladie, mais c'est une blessure.
Oui, c'est une blessure, parce que ça ne se soigne pas avec des médicaments, contrairement à une maladie.
Une image comme celle-là, le doigt dressé vers le ciel, un charnier sous le sable, c'est la mort, en fait. La mort qui fait irruption dans leur vie, qui les accompagne en permanence, qui leur pourrit la vie, en fait. C'est ça ce qui leur arrive. On va vous raconter comment ils sont pris en charge, comment ils sont soignés pour revenir vers la vie civile.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le syndrome post-traumatique, c'est un mal qui touche officiellement plus de 500 militaires français, mais leur nombre ne cesse d'augmenter. Il devrait être 600 l'année prochaine. On découvre leur histoire avec Lucas Duvernay-Coppola, journaliste au magazine Society, qui publie un article sur ce thème. C'est en partenariat avec RTL. Vous nous disiez, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Ils sont 500, ils seraient 600 l'année prochaine. Pourquoi ce chiffre augmente ?
En fait, le chiffre officiel qu'on a pour l'instant, c'est 554. Pour vous dire, pendant les 9 jours qu'on a passé dans le stage, on est arrivé, il y en avait, je crois, 537. Et à la fin du stage, le colonel nous a dit, bon, bah voilà, on est passé à 554. C'est le chiffre, en fait, officiel qu'a la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Et donc, ces militaires qui sont comptabilisés sont ceux qui sont actuellement soignés dans les hôpitaux militaires. Ce chiffre va augmenter parce qu'il y en a qui ne se sont pas encore déclarés, il y a des militaires qui préfèrent rester chez eux, qui refusent d'admettre aussi, qui ne savent pas en fait mettre un mot sur le mal qui est le leur.
Il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler, c'est ça ?
Bien sûr, c'est un sujet encore un petit peu tabou, hein, dans l'armée, puisqu'il y a toujours cette image très virile très héroïque du militaire. Donc une blessure psychique, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à admettre.
Et pourtant, une série comme Homeland, j'imagine, a dû un peu libérer la parole sur ce sujet-là, ou même certains films que, alors je me rappelle plus du titre, c'est dommage, ce film formidable d'un soldat qui revenait justement d'une guerre et qui devait soigner ce, mais vous qui êtes super bon,
ah oui,
au ciné,
alors là c'est un peu trop vague,
bon, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup
aider.
En tout cas c'était pas avec Tom Cruise. Alors, André Facetta, notre réalisateur, essaie de venir à notre aide, mais c'est pas grave. Ah non, Coralie Lutinier. Non plus. Bon.
Bon, bah écoutez, on trouvera pas le titre de ce film, mais ça c'est pas très grave. Donc l'histoire de ces soldats qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il venait 9 jours, c'est ça, dans ce chalet, 10 hommes, hommes ou femmes, pendant 9 jours. C'est pas assez pour les soigner.
En fait, ce séjour représente l'aboutissement d'une guérison. Dire ça comme ça. Ces soldats sont en congé longue durée maladie, ça fait plusieurs années qu'ils sont arrêtés, ça fait plusieurs années aussi ou plusieurs mois qu'ils sont pris en charge dans les hôpitaux, qui vont voir des psychologues, des psychiatres, et en fait les médecins qui les suivent au quotidien considèrent qu'au bout d'un moment ils sont aptes à, et ils sont prêts pour faire ce stage, ce que c'est pas le cas de tout le monde en fait. Donc 9 jours oui, mais c'est en fait le résultat d'un processus plus long.
Alors je me permets juste, le film dont je cherchais le titre, c'est Sniper, un film de Clint Eastwood, bien sûr avec Bradley Cooper.
D'accord, bah là j'ai compris, effectivement je l'ai vu.
Avec les infos c'est mieux, non?
Effectivement, c'est un très bon film et c'est une histoire vraie d'un héros de l'armée américaine qui a été d'ailleurs tué, c'est la fin du film, par un soldat qui lui-même souffrait de stress, de ce syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que c'est la hantise de l'armée, ça, tiens, de perdre certains de ces soldats qui deviennent, je sais pas, soit on a des images d'anciens du Vietnam, clochards avec leurs médailles de vétérans. Est-ce que c'est la hantise de l'armée française?
Alors,
de voir une image comme celle-là,
c'était justement tout l'objectif de la mission du colonel Malou lorsqu'il a pris la tête de la cellule d'ado blessé de l'armée de terre en 2010. La seule consigne que lui a donnée sa hiérarchie, c'était hors de question de retrouver des militaires français, des soldats français, avec une pancarte dans le métro sur laquelle ils ont accroché leur médaille de vétéran. Ouais. Le but, c'était aucun soldat français ne doit être perdu.
Et est-ce que l'autre aspect, ben c'est pas justement la fin du film, Sniper, c'est-à-dire que d'avoir des hommes ou des femmes dangereux dans la nature?
Si, bien sûr, c'est tout le but de détecter ce syndrome, cette blessure. C'est y a des personnes qui refusent d'admettre qu'ils sont atteints de cette blessure. On ne sait pas ce qui peut se passer. Effectivement, ça peut être dangereux. Pour l'instant, ça s'est jamais produit encore en France. Il n'y a pas d'anciens militaires ou de militaires qui a pété un plomb et qui a défouraillé comme ça peut se passer aux États-Unis.
Vous avez rencontré pour votre reportage, Luca Duvernay-Coppola, plusieurs militaires dans ce chalet de Beuil, et notamment Nico. Quelle histoire il vous raconte?
Nico, c'est quelqu'un qui a servi dans l'armée pendant 24 ans et qui nous raconte plusieurs choses. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand son syndrome s'est déclenché, quand il a été arrêté en congé maladie, tout son régiment lui a tourné le dos. Donc c'était quelque chose de très difficile pour lui, ça continue à l'être aujourd'hui.
Mais ce sont des amis, j'imagine, des proches.
Ce sont même des frères, des frères d'armes. C'est quelque chose d'encore de plus fort, en fait, je pense. Et donc voilà, tout son régiment lui a tourné le dos, c'est quelque chose qui a été très difficile. Nico, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a fermé une base en Afghanistan, une base à Tagab, et son véhicule a été pris dans un accrochage très violent. C'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans des situations de combat violentes, et son esprit, c'est ce qu'il nous raconte, son esprit s'est dissocié de son corps et il s'est vu dans le véhicule en étant incapable de réagir, de bouger, de faire quoi que ce soit. Et il a complètement perdu confiance, en fait, à partir de ce moment-là, son corps ne réagissait plus du tout. Et c'est ça qui a fait qu'il a demandé à s'arrêter, quoi.
Vous avez assisté à des séances de thérapie dans ce chalet de Beuil. Ça se passe comment?
Alors
c'est quoi, de la relaxation?
Des séances de relaxation, ouais, plus que de thérapie. Il y a plusieurs ateliers qui sont proposés. En fait, c'est donc un médecin qui s'appelle le médecin Marion Trousselard qui gère ça, elle fait ça un petit peu à la carte, c'est-à-dire qu'elle parle aux soldats, elle leur dit bah voilà, si vous avez besoin de ça, on peut faire ça, si vous avez besoin d'autre chose, on peut faire ça. Elle propose essentiellement deux choses. La première, c'est un atelier de relaxation assez classique, dans lequel il y a une voix, c'est un enregistrement, qui invite à se concentrer, à fermer les yeux, à se concentrer sur sa respiration, ça fait beaucoup de bien. Puis il y a un autre atelier qui est un atelier de body scanning, donc là on est allongé, l'autre on est assis. Et l'atelier de body scanning, en fait, permet de ressentir toutes les parties de son corps, les pieds, petit à petit, de sentir en fait tout son corps et se concentrer vraiment sur le moment présent.
Mais comment ça les aide, ces moments de méditation? Ça fait ressortir des moments, des souvenirs, ou au contraire, ça projette vers une vie, la vie d'après?
Non, en fait, justement, c'est ni l'un ni l'autre. Ça permet en fait de se concentrer vraiment sur le moment présent. Et ça évite de ressasser des mauvais souvenirs.
Et puis réintégrer son corps aussi, absolument. Notamment pour Nico qui a l'impression d'avoir été dissocié.
Ouais, c'est prendre conscience de son corps, prendre conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Et ça évite de ressasser soit les mauvais souvenirs, soit les prises de tête sur l'avenir.
Alors, on imagine ce groupe-là d'hommes qui ne se connaissaient pas avant, qui vont devoir partager le quotidien pendant une dizaine de jours dans un chalet militaire à Beuil. Ils discutent, il y a des souvenirs qui reviennent, et puis ils écoutent de la musique, notamment les chansons de Jean Pax, Mes Frais.
Fait gris sur la vie, il manque un ami, la dame blanche l'attendait. Fait lourd sur la nuit, quand on est saisi par l'avalanche des regrets.
Les oies sauvages, c'est le titre de cette chanson de Jean Pax, Mes Frères. Ça parle des soldats disparus. Je disais tout à l'heure, c'est la mort qui prend trop de place dans la vie de ces hommes qui sont pensionnaires au chalet de Beuil.
Ben en fait, un soldat, il est préparé à deux choses essentiellement. Il est préparé à donner la mort, il est préparé à la recevoir. Mais personne n'est vraiment préparé à ce que le colonel Malou appelle l'effraction de la mort dans la vie. Pour dire ça autrement, personne n'est préparé à voir la mort droit dans les yeux, en fait. Donc
ça les hante après, en fait.
C'est la mort, en fait, qui les hante. C'est ce qu'ils ont vu, c'est le camarade qui est tombé à côté, c'est la personne qu'on a tuée, on a vu l'effet que ça faisait sur le corps. C'est ça qui hante après les soldats.
À quoi ressemblait la vie quotidienne de ces soldats quand ils sont rentrés chez eux après une opération traumatisante? Comment le stress post-traumatique s'est-il déclenché? On vous le raconte tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Des hommes debout, tiens, c'est l'histoire qu'on vous raconte dans La Curiosité ce soir, l'histoire de ces hommes, de ces soldats de l'armée de terre traumatisés par leur mission de guerre. Notre invité, Lucas Duvernay-Compola, est journaliste et pour le magazine Society en partenariat avec RTL. Il a rencontré certains de ces hommes et vous dites qu'ils ont tous réalisé déjà une sorte d'exploit en venant dans ce chalet de Beuil, dans le Mercantour, où ils sont pris en charge. Pourquoi c'était un exploit?
Parce que la plupart des soldats qui sont blessés, qui souffrent de cette blessure psychique, ont passé beaucoup de temps seuls, à s'isoler, à avoir peur en fait de ce qui les entoure, du monde qui les entoure, des autres. Et donc certains ne sont pas sortis de chez eux pendant plusieurs années. En fait, il y en a un qui, Nico, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas sorti de chez lui pendant 2 ans quand il a été blessé.
Quand ce syndrome s'est déclenché,
ouais. Il nous raconte que même sortir son chien, il n'y arrivait pas.
Il vivait seul?
Non, il a une femme et des enfants.
Comment ça s'appelle ce mal, le moment où ça se déclenche? Bon, on a décrit le syndrome du stress post-traumatique, mais sinon c'est quoi? Ça porte un nom?
Ben, en fait, il y a plusieurs syndromes qui peuvent alerter, notamment l'hypervigilance. En fait, il y a 5 syndromes, je crois que la blessure se définit par 5 syndromes. Dans les choses qui peuvent alerter, il y a donc notamment l'hypervigilance, c'est grosso modo le fait de se sentir en danger partout, tout le temps, de sursauter dès qu'une porte claque, d'avoir peur d'aller faire ses courses au supermarché, de vouloir protéger ce qu'on aime et de se rendre compte qu'on n'est pas capable, de ne pas réussir à prendre le métro parce qu'il y a trop de monde. Voilà, c'est ce genre de choses.
Alors justement, les bruits de la ville, par exemple, peuvent réveiller des traumatismes. Par exemple, pour Franck, un ancien des forces spéciales que vous avez rencontré, que lui arrive-t-il 2 mois avant de venir au chalet de Beuil?
Alors Franck, ce qu'il nous a raconté, c'est que 2 mois avant de venir à Beuil, il avait invité des gens à dîner chez lui, des amis. Lui aussi ne vit pas seul, il a une femme et des enfants. Et à un moment donné, pendant ce repas, alors qu'il est avec ses amis, il entend des bruits dehors, une bande de jeunes qui passent en parlant un petit peu fort. Et puis à la fenêtre, il voit qu'une voiture est collée contre la sienne. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il pète un câble, en fait, hein, c'est l'expression. Il sort et il est persuadé que les jeunes viennent de voler une voiture et de l'abandonner devant chez lui. Donc il prend sa bagnole. Il fait le tour du pâté de maison, il interroge des gens et il nous raconte ce moment en nous disant « J'étais comme en mission, j'avais tous mes sens hyper éveillés. » Et puis au bout d'un moment, donc, il ne trouve pas la bande de jeunes. Et puis au bout d'un moment, il continue de tourner dans son quartier en voiture et puis se rend compte « Mais ce n'est pas du tout ça en fait, j'ai surréagi. » Et donc il revient et il y a son père qui l'attend devant sa porte et qui dit « Mais en fait, c'est juste que les voisins à côté aussi ils avaient des invités. » L'un de leurs invités a oublié de mettre son frein à main. Voilà, c'est ce genre de choses-là,
l'hypervigilance. Retour à la réalité.
Ouais. Ouais, quelque chose de totalement anodin qui prend une dimension dingue. Quoi.
Ça, absolument.
On ne peut pas dire autre chose. Est-ce qu'ils peuvent, en général, certains de ces soldats qui souffrent de ce syndrome de stress post-traumatique, est-ce qu'ils peuvent devenir dangereux pour leurs proches aussi?
Ouais, bien sûr, hélas, il y a de l'agressivité, il y a des militaires qui ont des blessés qui ont été violents avec leur épouse, avec leurs proches. Bien sûr, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver.
Et qu'est-ce qui vous raconte une histoire de dérive, puisque ça prend du temps, hein, pour ceux qui nous rejoignent, ça se déclenche pas juste après le retour d'une opération extérieure, juste après un retour là du Mali ou d'Afghanistan.
En fait, ce qu'il nous raconte, c'est il nous raconte que c'est normal d'être choqué quand on revient de la guerre. Il nous raconte aussi qu'ils ont longtemps été dans le déni en fait. On se dit bon bah c'est normal, je fais des cauchemars, c'est normal, je suis stressé, c'est normal. Tout ça va passer, puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ça passe pas, voire que ça empire.
Ils sont allés chercher du soulagement ailleurs, par exemple dans l'alcool ou dans la drogue?
Oui, bien sûr. Beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux ont eu ou continuent d'avoir recours à l'alcool, aux joints ou à de la cocaïne. C'est ça les trois alcools, les trois drogues les plus prisées.
Vous avez, Luca Duvernay-Coppola, partagé finalement leur quotidien pendant 9 jours dans ce chalet à Beuil, là dans le Mercantour. Donc il y avait ces séances de relaxation, de méditation que vous nous avez décrites. Il y avait des épreuves physiques aussi, des tests, ils font du sport?
Alors il y a du sport, il n'y a pas de tests, hein, c'est justement tout l'esprit, hein, il n'y a plus de compétition. On attend les derniers, ils n'ont plus la condition physique qu'ils avaient. Mais bien sûr.
Pour vous, parce que ça devait être dur de suivre.
Ouais, c'était pas évident, parce que malgré le fait que certains n'ont pas fait de sport depuis longtemps, ils ont quand même des bons restes qui reviennent très vite.
On imagine.
Mais en fait, ouais, le sport, c'est un esprit sain dans un corps sain, en fait. Et la plupart des blessés ont un peu du mal à se regarder dans la glace. Ils ont pris du poids, parce qu'à l'époque, ils faisaient évidemment beaucoup de sport, ils n'en font plus. Donc il y a quelqu'un qui est chargé du sport, en fait, au sein de ces stages, qui s'appelle Hervé Fleury, le major Fleury. Et il est là pour redonner goût à l'effort et confiance, en fait. Il est là pour que tu puisses retrouver confiance en toi, en fait.
Il y en a certains que vous avez vus craquer pendant ce stage, ce stade de transition entre la guerre et la vie.
Craquer, c'est, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bien sûr, après, il y a plusieurs soldats qui éclatent en sanglots à certains moments. Le fait d'ouvrir des portes, en fait, de se rendre compte qu'on avance, de comprendre qu'on était bloqué en fait, et que là on vient de faire un pas en avant. Alors c'est pas des gens qui craquent, mais c'est des gens qui pleurent.
Ce sont des solitudes ensemble où ils arrivent à parler, reconstituer vraiment un groupe, ces militaires, et même à se confier les uns aux autres, à se soulager aussi, à se sentir moins seul.
Alors au début, l'ambiance est assez lugubre, chacun reste un petit peu dans son coin, puis au bout de quelques jours, ces frères d'armes forment une famille, une véritable famille. Ils s'aident vraiment tous les uns les autres. Alors après, tout est mis en place pour que cet état d'esprit arrive. Mais ils s'aident vraiment les uns les autres. Ils sont d'un soutien sans faille les uns pour les autres, ils se parlent, ils se racontent beaucoup de choses entre eux. Quand ils font du sport, ils se soutiennent moralement et ils tissent en fait en 9 jours des liens très très forts entre eux.
Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? L'objectif, c'est qu'ils réintègrent la vie civile, c'est ça ?
Alors l'objectif, il y en a sur les 10 blessés, un seul a exprimé le désir de rejoindre à nouveau l'armée. Les 9 autres vont rejoindre la vie civile. L'armée de terre a mis en place une opération qui s'appelle l'opération Omega, qui consiste en fait à aider ces soldats blessés à aller dans la vie civile. Donc elle a constitué un vivier d'entreprises pour accueillir ces soldats chez elles. Les soldats, en fait, ils ne le savent pas, mais ils ont des qualités que les civils n'ont pas toujours. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas un souci de se raser le matin. Ils arrivent tout le temps à l'heure, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui donne une consigne, il n'y a pas de souci. Ils ont l'habitude d'obéir à des ordres. Et donc, souvent, ça devient des super. Alors, il y a plein de métiers en fonction de leurs besoins.
Merci beaucoup, c'était passionnant et vous nous aviez dit que ce reportage avait été difficile à écrire parce qu'il fallait respecter aussi le lien que vous aviez créé avec eux. Et
je vous l'avez très bien raconté, Lucas.
Vous nous l'avez bien raconté, merci beaucoup. C'est à lire dans le magazine Society.
Vous écoutez RTL.